France Musique.
Bah, qu'est-ce que tu pêches ?
La musique.
Ah bah voilà une drôle d'idée.
Ça doit être un musicien, comme il est sensible.
J'ai souvent comparé Vivaldi à un bon champagne.
Tout ce que Vivaldi a écrit pour la voix, c'est pas humain.
Vivaldi a une nature extrêmement théâtrale.
Vivaldi était le grand compositeur d'opéra de la période baroque.
Je suis Antonio Vivaldi.
Si Florence fut le berceau de l'opéra à la fin du XVIe siècle, la République de Venise prend le relais dès le XVIIe. La Sérénissime a en effet le génie de transformer ce genre jusqu'alors réservé à une élite en un spectacle populaire. En 1637, le Teatro San Cassiano ouvre ses portes à tous les Vénitiens. C'est le début des théâtres lyriques publics et payants. Ce nouvel élan donné par cette politique d'ouverture révolutionnaire a pour conséquence la création de nouveaux théâtres. Ce feu opératique est loin de s'éteindre au siècle suivant, de quoi offrir de nouvelles opportunités aux prêtres roux.
Disons que Vivaldi aurait été aujourd'hui une sorte de roi du show business.
Deuxième épisode, Antonio Vivaldi, l'inspiration incandescente.
Suzanne Orlando, musicologue.
L'opéra, à l'époque de Vivaldi, ça cartonnait, comme on dit aujourd'hui. À Venise, il y avait 5 théâtres. Et Vivaldi a pris en main, en 1713, le Théâtre Sant'Angelo, lui et son père, qui était son bois droit. Le Théâtre Sant'Angelo était un petit théâtre qui avait 400 places. Donc c'était petit, mais c'était très populaire. Et bon, c'est comme ça qu'il a commencé à être connu pour ses opéras.
Patrick Barbier, historien de la musique.
Vivaldi récupère une salle dans laquelle il va falloir mettre le même soir à la même heure le gondolier, la femme de chambre et le grand prince. Donc on peut pas mettre tous ces gens au coude à coude, c'est pas dans l'esprit de l'époque. Mais il faut quand même que tout le monde soit dans la même salle. Donc les Vénitiens vont vraiment inventer un système où au parterre, tout le monde est debout. En général, plutôt des hommes. Ça veut dire tous les gondoliers, tous les artisans de Venise, le fabricant de masques, etc. Il s'offre un billet très bon marché. Il vient debout assister au spectacle. En revanche, les deux premiers étages de loge sont réservés aux très grandes familles qui, elles, vont se battre pour avoir une loge et vont acheter leur loge. On est propriétaire de sa loge. On va donc pouvoir apporter ses propres meubles dedans et on va aussi pouvoir léguer sa loge en héritage à ses enfants, ses petits-enfants. C'est un bien comme un palais ou une maison. Ensuite, on arrive à un avant-dernier étage qui est plutôt occupé par ce tout début de bourgeoisie. Et enfin, tout en haut, un dernier étage où on va retrouver le petit peuple qui lui est assis là, mais évidemment pas très bien assis et pas avec une vue idéale, et donc qui retrouve des places très bon marché. L'opéra, le théâtre, c'est le lieu qui rassemble absolument tous les Vénitiens.
Philippe Jarouski, contre-ténor.
Son goût pour l'opéra, il vient peut-être de son goût pour l'argent et le succès. C'est-à-dire qu'effectivement, un compositeur à l'époque, s'il veut vraiment briller, il doit composer de l'opéra, puisque tout ce qui est concerto, tout ce qui est musique religieuse, se fait dans des cercles un peu plus intimes, dans des salons ou dans des églises. Et il y avait une ambition très forte chez Vivaldi. Et donc c'est ça qui devait vraiment le guider. Et puis, cette rapidité à composer, c'est du pain béni pour un compositeur d'opéra, puisque on sait bien qu'à l'époque, on ne composait pas un opéra tous les 5 ans, il fallait fournir de tout le temps de la musique nouvelle, et que Vivaldi, il y avait cette rapidité qui lui permet de réaliser ses commandes de manière brillante et rapide.
Oh.
Vivaldi a fait 3 opéras en moins de 3 mois. 2 pour Venise et le 3e pour Florence. Le dernier a rétabli le théâtre de cette ville et lui a fait gagner beaucoup d'argent.
Il écrivait plus vite qu'un copiste pouvait recopier sa partition.
Amandine Beyer, violoniste.
Ce n'était pas quelqu'un, je pense, qui réfléchissait devant la partition. Donc, c'est une écriture très, très énergique. On sent que ça va très vite dans sa tête. Et en même temps, ce n'est pas seulement une inspiration et je me laisse emporter et je ne vérifie rien après. Je pense qu'il est tout à fait conscient ensuite de comment s'emparer de son inspiration et la travailler.
Suzanne Orlando.
J'ai eu l'honneur de travailler beaucoup avec les partitions originaux. Et à certains moments, on voyait qu'il était pressé et toutes les notes sont vraiment presque couchées. Ils sont tous penchés. On voyait qu'il allait en avant au galop.
On connaissait Vivaldi pour sa rapidité d'écriture.
Philippe Jarouski.
Et c'est un peu ce qu'on lui a parfois reproché dans certains opéras. Puisqu'il y a même le directeur du théâtre La Pergola à Florence qui a demandé à Vivaldi un nouvel opéra, mais vraiment nouveau, c'est-à-dire pas avec des airs repêchés dans ses anciens opéras. Donc les gens savaient qu'il avait une tendance à réutiliser sa musique, et c'est vrai que dans certains opéras, on a un air qui est exactement le même avec des textes différents. C'était parfois le côté un petit peu fainéant.
Ce n'est pas moins d'une 100 d'opéras qui sont créés rien qu'au cours des 6 mois du carnaval. Chaque soir, les théâtres vénitiens rivalisent donc pour proposer à ce public gourmand les dernières pépites opératiques. Et le théâtre Sant'Angelo, dirigé par Vivaldi, n'est pas en reste, même si parfois le compositeur ne se prive pas, sans doute par manque de temps, de recycler certaines partitions afin de répondre en temps et en heure à l'appel de ses admirateurs.
Quand vous aurez l'ordre de composer l'opéra de Ginevra, vous ferez comme je vous l'ai dit et redit. Et ne rechercherez pas les vieux airs d'opéra antérieurs pour les insérer à votre gré. Si dans le théâtre ils sont reconnus, vous savez que c'est une chose qui n'est pas portée à votre crédit. Et peut-être ceux qui les chantent seront-ils obligés de les modifier.
Il y a une masse de compositeurs qui écrivent eux-mêmes une masse d'opéras différents. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de réécouter un opéra déjà donné l'année d'avant. L'année suivante, un opéra, c'est fini. Il ne sera pas rejoué. On est dans une espèce de boulimie de création et on n'aime pas, en somme, ce qu'on appellerait des soupes réchauffées, quoi. Un opéra qui a déjà servi, ben non. On ne craint rien puisqu'il y aura toujours de la création, il y aura toujours du nouveau.
Olivier Forès, musicologue.
L'opéra doit se renouveler un peu tout le temps, doit trouver toujours de quoi plaire. Le public populaire est très critique et surtout manifeste immédiatement ses émotions. On sait qu'en Italie, les bancs pouvaient servir ou à applaudir ou carrément à fracasser la tête des chanteurs sur scène. Par exemple, Vivaldi a organisé un opéra de Kelleri, donc qui n'était pas de lui, mais ça a été un tel désastre que tout simplement le compositeur a été poignardé dans la rue à la sortie. Donc on sent que le monde de l'opéra vénitien, c'est un monde extrêmement vif.
Quelques mois après avoir pris les rênes du théâtre Sant'Angelo, Vivaldi compose son tout premier opéra. Il a 35 ans et obtient de la Pietà l'autorisation d'échapper à sa charge le temps d'assurer sa première commande, l'opéra Ottone in Villa. C'est le début d'une aventure qui le fait voyager de Florence à Mantoue et grâce à laquelle il déniche chanteur, musicien et librettiste pour son propre théâtre. Car la rentabilité est de mise au Sant'Angelo, ce théâtre mis à sa disposition par une noble famille vénitienne dans un but lucratif. Diriger ce théâtre à l'architecture simple et dont l'entrée est vendue à prix réduit n'est donc pas chose aisée. La direction, aussi bien financière qu'artistique, représente un véritable défi de gestion pour Vivaldi. Le 9 novembre 1713, il y présente son opéra Orlando Furioso. 18 autres suivront, non sans un certain succès.
C'est quelqu'un qui a joué le rôle d'impresario et de directeur de théâtre. Impresario, c'est un vrai métier parce que ça demande d'abord de faire un très bon choix sur les interprètes. À Venise, et comme partout, les moyens ne sont pas extensibles. Donc si vous mettez trop d'argent sur les chanteurs, vous n'en aurez plus pour les décors ou l'orchestre. Il y a quand même toujours un principe de vase communicant. Donc Vivaldi va essayer de faire des saisons qui se tiennent.
Olivier Forès.
C'est lui qui gérait les saisons et qui décidait en fait les opéras qui allaient être montés, alors des fois les siens, des fois des opéras d'autres compositeurs qu'il faisait venir, avec qui il collaborait, et notamment des fois au travers de pasticcio, c'est-à-dire un opéra qui était composé d'air de plusieurs compositeurs, donc Vivaldi, et tout ça pour arriver à un spectacle, parce que le plus important de l'opéra, c'était quand même le spectacle, que les gens reviennent le lendemain. Donc il était prêt même à adapter un opéra du jour au lendemain, à changer un air, ou faire un autre intermède, ou lui se mettre à jouer un concerto pour violon au milieu de deux actes. Tout ça pour évidemment animer le spectacle. On sent vraiment que la facette impresario de Vivaldi était d'ailleurs une des choses qu'il aimait le plus. Le monde du théâtre, le monde des coulisses, c'est quelque chose qui l'attirait particulièrement. Vivaldi a travaillé au Sant'Angelo, qui était probablement l'opéra le plus créatif. C'était celui aussi qui était le moins cher de la ville. On savait que le niveau musical était toujours extrêmement réputé. Et que surtout, les gens y allaient pour voir peut-être un jour un animal de foire, pour voir un jour une improvisation de Vivaldi, ou voir un jour un danseur. Donc, quelque part, ils devaient toujours avoir des costumes ou une idée. Il y avait toujours des sujets un peu surnaturels. C'était un peu la place to be à l'époque de Venise, pour tous ceux qui cherchaient le circuit off de l'opéra. D'ailleurs, tous les voyageurs se ravissent de trouver de l'opéra à si bon marché et de cette qualité tellement extraordinaire.
Philippe Jarouski.
On aimait amener l'auditeur vers des climax. On savait aussi que le public aimait écouter, mais n'écoutait pas de la même façon que maintenant. Ça mangeait, ça sortait, ça parlait. Et on savait qu'il y avait des moments où il fallait écouter un petit peu plus. C'est exactement ce que fait Handel dans beaucoup de ses opéras également. C'est ménager ses effets pour arriver à des grands airs qui vont marquer l'esprit des auditeurs. Et ça, Vivaldi le fait extrêmement bien. Il y a quelque chose qui vient de la sorcellerie, de la magie ou de la sorcellerie, mais je préfère le mot sorcellerie, c'est plus ambigu. C'est-à-dire qu'il y a parfois des marches harmoniques très simples, un rythme très simple, une mélodie qui vous paraît tomber de nulle part et ça vous rentre dans les oreilles et ça vous reste à jamais dans le cerveau. C'est quelqu'un, on le sait, qui aimait plaire et ça transparaît dans sa musique énormément. C'est un charmeur. Il y a un vrai génie dramatique chez Vivaldi. Et un Vivaldi dramaturge, un Vivaldi qui vit les passions de ses personnages.
Cecilia Bartoli, mezzo-soprano.
Vivaldi a écrit pour la voix certains airs d'une virtuosité presque impossible. Il faut chanter à l'unisson avec le violon dans un registre très aigu, très grave. C'était un vrai défi à l'époque. Mais je trouve la beauté de Vivaldi dans la sensualité et dans la mélancolie aussi.
Vivaldi connaissait bien les voix pour qui il écrivait. Vivaldi a formé notamment toutes ces chanteuses de la Pietà. Et je pense qu'il avait vraiment une connaissance de ce qu'il pouvait demander ou pas à un chanteur. On est évidemment en plein âge d'or des castrats, et puis des grandes chanteuses aussi. Donc on a une virtuosité très belle cantiste. Il utilise vraiment les extrêmes des voix. Il y a aussi parfois, on le sent bien aussi dans l'écriture, je pense notamment aux notes répétées qu'il y a parfois dans certaines vocalises, quelque chose d'un petit peu plus violonistique qu'il faut apprendre à maîtriser. Et puis, il y a ce sens de la mélodie qui va charmer le public par sa simplicité, sa beauté.
Oh,
pas, je dirais, deux états où il excelle. Cette douceur, cette mélancolie, cette sensualité, quelque chose qui va plus à l'essentiel. Il a cette capacité à figer le temps, qui sont l'apanage de grands compositeurs comme Schubert. Quand on interprète des airs comme ça, je dirais presque qu'on n'a pas grand-chose à faire à part faire les notes, tellement ça nous porte. Et puis, il excelle aussi dans la fureur qui va au bord de la folie, donc tous ces airs de tempête qui ont vraiment fait des chefs-d'œuvre. Alors je pense à deux airs de l'Olympiade, par exemple le Siam Navia, l'Onde Argenti, et puis le Gemo, par exemple, qui est une scène absolument fantastique, on dirait presque déjà du Jimi Hendrix, du rock'n'roll.
Ah, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Anna Giraud. Je suis élève en tant qu'externe à la Pietà.
Un des plus beaux rôles reste à distribuer dans cet opéra. Prions notre Seigneur pour que votre voix soit celle qui convienne à une parfaite interprétation.
Maître, cette partition est difficile, mais en aucun cas je ne souhaiterais vous décevoir.
Votre désir de perfection est une vertu qui vous honore. Je vous remercie de votre confiance et de l'attention que vous portez à mes œuvres. L'intérêt que vous manifestez pour ce dernier opéra me donne à penser que nous allons merveilleusement travailler ensemble, et pour très longtemps.
Il s'est attaché à une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui.
Patrick Barbier.
Qui s'appelait Anna Giraud. Et cette Anna Giraud a chanté beaucoup pour Vivaldi. Vivaldi a créé vraiment des rôles pour elle, et il en a fait son interprète préféré. Vivaldi a préféré dans l'ensemble les voix de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas utilisé de castrat, mais il n'en a pas fait ses interprètes systématiques et je dirais privilégiés, comme beaucoup de compositeurs, et notamment les Napolitains. Et certainement, cette amitié affective très forte pour Anna Giraud doit expliquer pourquoi il a tellement mis en avant les voix féminines plutôt que les voix de castrat.
Olivier Fourès.
Quand on voit la Giraud, à l'époque, les gens disaient que c'était une actrice tellement incroyable, elle avait des grâces sur scène qu'en fait, on ne pouvait pas y résister. Et je pense que ça représente bien ce que cherche finalement Vivaldi chez les interprètes, c'est-à-dire avant tout une personnalité scénique. Beaucoup plus que des critères standards de virtuosité ou d'attitude musicale, il cherche avant tout des personnes capables de s'approprier la musique. Et ça, on le reconnaît au travers de Giraud, qui était peut-être certainement pas la meilleure voix qu'il a eue à son époque, mais avec laquelle il a vraiment aimé travailler, justement pour sa force scénique.
Dans ses déplacements, quand il allait d'une ville à l'autre, très souvent Vivaldi a voyagé avec Anna Giraud et sa sœur. Donc j'ai pas besoin de préciser le nombre de cancans et de ragots qui ont été racontés sur Vivaldi. Évidemment, voir un homme dont on sait qu'il est prêtre, hein, parce que tout le monde sait que c'est le prêtre roux, c'est l'abbé Vivaldi, qui ne quitte jamais cette jeune fille, Anna Giraud, dont on sait que très souvent elle est chez lui et lui il est chez elle, etc. Bon, c'est évidemment très facile de cancaner sur ce drôle de couple qui n'en était pas un, parce que non, il ne s'est absolument rien passé entre eux. Mais c'était peut-être le fait qu'un prêtre qui menait une vie qui n'était pas une vie de prêtre, impresario, directeur de théâtre, professeur, voyageur, etc. En plus, toujours avec une jeune femme, c'était pas complètement dans les normes, même pour une ville assez libérée comme Venise.
Suzanne Orlando.
C'est très excitant de penser à cette relation dans cette ville où tout était mystérieux. Mais franchement, c'est presque impossible qu'une chose pareille a pu exister entre Vivaldi et elle. Il avait cette maladie qui faisait qu'il marchait avec grande difficulté. Il était certainement habillé en prêtre et il vivait toute sa vie avec sa famille. Alors, comment est-ce qu'il faisait pour sortir et traverser Venise pour avoir une réunion dangereuse avec une jeune fille? Il aurait été dénoncé très vite. Il y a d'ailleurs à Venise un registre des prêtres qui étaient condamnés, justement parce qu'ils ont été dénoncés pour des choses qui ne sont pas permises. On ne trouve jamais le nom de Vivaldi dans ce registre.
Jamais je ne suis à la maison avec les Giro. Les mauvaises langues peuvent dire ce qu'elles veulent, mais vous savez qu'à Venise, il y a d'un côté ma maison, que je paye 200 ducats, d'un autre, très loin de la mienne, celle de la Giro.
Venise est une ville qui est extrêmement policée. C'est quand même une ville où il y a beaucoup de dénonciations. Parce que justement, cet anonymat derrière les masques fait qu'on va en profiter pour aller dénoncer des esprits récalcitrants. Donc il fallait, comme on dit familièrement, se tenir à carreau, moyennant quoi on jouissait d'une sorte de tranquillité et de bien vivre pour le reste de la journée.
Lorsqu'Antonio voit le jour, cela fait déjà près de 50 ans que Venise occupe le devant de la scène de l'opéra. S'y côtoient le comique et le tragique, le sensationnel et l'ordinaire. Au tournant du XVIIe siècle, notamment sous l'impulsion de l'Académie de l'Arcadie à Rome, cette coexistence va être remise en cause et va conduire à la distinction de deux sous-genres lyriques, l'opéra buffa et l'opéra seria. L'opéra buffa s'inscrit dans la droite ligne de la commedia dell'arte, tandis que l'opéra seria penche vers le tragique sans pour autant faire l'économie d'un happy end. Avec ce nouveau genre, les grands drames antiques et contes médiévaux retrouvent toute leur force dramatique, et c'est dans cette droite ligne que Vivaldi va inscrire ses opéras avec l'aide de nombreux librettistes.
En votre absence, un homme élégant vous a réclamé. Il se nomme Carlo Goldoni et se flatte d'être l'un des jeunes auteurs les plus appréciés de cette République.
Ah oui, Goldoni. Ses pièces commencent à connaître un certain succès. Il a sans doute besoin que je lui écrive une lettre de recommandation auprès d'un dignitaire de notre cité.
Goldoni, quand il était très jeune, il était envoyé chez Vivaldi pour travailler avec lui sur les librettes d'une opéra en particulier. Et il était très, très mal reçu. Vivaldi l'a presque pas regardé. Il se voyait qu'il pensait ce jeune, il ne sait rien du tout. Et après, quand il a vu comment Goldoni travaillait, Vivaldi a explosé de joie de voir à quel point ce jeune homme était capable.
Voici le drame que vous devez accommoder, la Griselda. L'ouvrage est très beau, mais certains changements sont indispensables. Ici, par exemple, il y a un air cantabile. Mais comme Mademoiselle Anna n'aime pas cette sorte d'air, il faut ici un air d'action qui reflète la passion, mais qui ne soit ni pathétique ni cantabile.
J'ai compris. Je m'efforcerai de vous satisfaire. Donnez-moi le livret.
Mais j'en ai moi-même besoin. Quand me le rendrez-vous?
Aussitôt. Donnez-moi une feuille et une plume.
Quoi? Monsieur s'imagine qu'un air d'opéra est comme un intermède?
Je sentais la colère me gagner et lui répondis insolemment. Il me donna la plume et tira une lettre de sa poche, dont il arracha un morceau de papier blanc.
« Ne vous mettez pas en colère. Asseyez-vous à cette petite table. Voici le papier, la plume et le livret. Faites à votre convenance. »
Il retourna à sa table de travail et se mit à réciter le bréviaire. Je lus alors attentivement la scène. Partant du sentiment de l'air « cantabile », j'en fis un air d'action, de passion, de mouvement. Je le lui apportai et lui fis voir. Tenant son bréviaire de la main droite et ma feuille de la gauche, il lut à voix basse. Quand il eut fini de lire, il jeta le bréviaire dans un coin, se leva, m'embrassa, courut à la porte et appela Mademoiselle Anna. Elle arriva avec sa sœur, il leur lut l'air, criant
« C'est lui qui l'a faite ! C'est lui qui l'a faite ! Bravo !»
Et de nouveau, il m'embrassa. J'étais maintenant devenu son ami, son poète, son confident. Et il ne m'a jamais abandonné.
C'est quelqu'un qui apparemment est un peu sec de nature et pas forcément toujours accueillant, toujours agité, toujours dans une espèce de nervosité. Il peut changer d'humeur en quelques minutes. Il vous accueille très froidement chez lui. 10 minutes après, il vous tombe dans les bras en vous disant que vous êtes le meilleur ami du monde. Donc voilà, c'est un personnage qui devait être pas forcément facile à vivre au quotidien, hyper nerveux et finalement hyper actif.
Fort de ses succès à l'opéra, les administrateurs de la Pietà décident de confier à Vivaldi la composition de toutes les œuvres musicales pour accompagner la vie religieuse de l'hospice. Motets, messes, psaumes et autres pièces liturgiques, jouées par les musiciennes les plus talentueuses, accompagnent les divers événements religieux qui rythment la vie de l'orphelinat, tels les messes solennelles, les cérémonies exceptionnelles ou encore les concerts d'oratorio. Son statut de prêtre et son rapport étroit avec cette institution religieuse marquent incontestablement son œuvre. Sa musique renferme ainsi une dimension sacrée et cette promesse de liberté qu'offre l'écriture lyrique. Vivaldi sait mieux que personne faire coexister au sein du même langage le sacré et le profane à travers des airs dont la force de frappe émotive reste encore aujourd'hui désarmante.
Sa musique religieuse est très importante. Il a touché à des sommets de spiritualité. Ma pièce préférée, c'est Nisi Dominus. Et ce Cum Dederit est une des pièces de Vivaldi où le temps s'arrête, mais j'irai même plus loin. Cette note répétée à la basse comme un battement de cœur, on est au-delà de la musique baroque. Cette pièce pourrait ne pas être une pièce baroque. Et puis, il y a aussi une perfection formelle dans les œuvres avec cœur. Il y a vraiment des choses sublimes. Il y a parfois, même dans certains airs d'opéra, des choses qui se rapprochent du sacré. C'est pas un hasard. Chanter l'œuvre d'un compositeur, c'est avoir une connexion presque chamanesque avec l'esprit de ce compositeur. Et je pense que finalement, quand on chante Vivaldi, c'est comme si on le convoquait tout simplement sur Terre et qu'il possédait une partie de nous.
Roger-Claude Travers, psychiatre.
Vivaldi est avant tout quelqu'un de profondément humain. C'était une musique pour les hommes, ça n'a jamais été une musique pour Dieu. Si les œuvres restent profondément émouvantes et humaines, il y a quand même quelque chose de plus. Peut-on parler de mysticisme ? Je ne sais pas.
Prêtre, violoniste virtuose, enseignant, compositeur de musique instrumentale religieuse et d'opéra, désormais producteur de spectacles, Antonio Vivaldi est partout. Malgré une santé chancelante, rien ne l'arrête, pas même les voyages. C'est à Mantoue que va naître une œuvre qui deviendra un tube planétaire, ses 4 saisons. C'est ce que nous apprendrons au prochain épisode.
Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir. Une saga de Saskia Deville, réalisée par David Travailleur. Lecture, Marc Saez et Guillaume Potier. Collaboration éditoriale et documentation sonore, Aline Billette. Assistance de Lina, Mylène Touchet. Mixage, Mathieu Tourin. Antonio Vivaldi, Les Saisons du Plaisir est un podcast original de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.